des polars et des notes.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur Radio Évasion pour ce des polars et des notes, un numéro comme à l'accoutumée plein d'intrigues tordues, de coups fourrés, de manœuvres politiques malodorantes et de crimes croustillants. Un numéro aux allures estivales, puisque nous nous déplacerons aussi bien en voiture qu'à pied, en bateau, en avion, mais aussi à cheval. Dans une folle et dantesque poursuite de cow-boys, mais pas d'indiens. De la variété, donc, ce qui ne change pas, c'est que vous retrouverez les références des romans sur le blog Le 429, en minuscules et sans espace, et que Pierre-Yves sera une fois de plus derrière la console, prêt à traquer la moindre distorsion ou la plus petite sonorité inopportune. Pas de lézard, on démarre par la Suède avec l'enquêteur agonisant de l'FGW, personne. Alors, je ne sais pas à quoi correspond les GW. C'est paru aux éditions Payot et Rivage dans la collection Rivage Noir et le livre a été traduit du suédois par Esther Sermage. C'est l'ex-chef de la police, une légende, Lars Martin Johansson, qui était une pointure révérée par tous les policiers. On le surnommait l'homme qui voyait dans les coins pour sa clairvoyance. Mais l'âge est là et Lars a dû faire valoir ses droits à la retraite et normalement devrait couler des jours paisibles en compagnie de son épouse Pia, de 20 ans sa cadette. Pourtant, il s'ennuie et, ne tenant aucun compte des conseils de son médecin, occupe ses journées à s'empiffrer de lipides assassins arrosés de schnapps et de vin. Ce qui ne tarde pas à payer cash sous la forme d'un AVC. Sauvé de justesse, la chance de reprendre goût à la vie se présente lorsque Ulrika Stenholm, sa neurologue à l'hôpital, lui demande son avis sur une très ancienne disparition de fillette, un crime aujourd'hui prescrit, dont elle vient d'obtenir de nouveaux éléments au décès de son père. Lars saute sur l'occasion de retrouver le plaisir de la traque en bougonnant que cela ne serve à rien puisque la prescription éteint tout espoir de procès et de mettre en prison le coupable. Il va se constituer une équipe de choc, alors là c'est quelque chose d'extraordinaire avec sa jeune assistante de vie, un personnage étonnant, fantasque, efficace, et un jeune homme orphelin russe mis à sa disposition par son frère. Profitant de la moindre occasion offerte par l'enquête pour reprendre ses mauvaises habitudes alimentaires, Lars va malgré tout et malgré le temps écoulé, avancer et bousculer nombre de certitudes. Élu meilleur roman policier scandinave de l'année, l'enquêteur agonisant, remarquablement traduit et construit, captive autant par ses personnages originaux et finement décrits que par son intrigue. Lars possède en plus d'un réseau d'amitié fort utile toute la palette du vieux flic revenu de tout. Humour noir, autodérision, un brin de cynisme, un peu d'illusion et peu d'illusion sur ses contemporains, ce qui n'empêche pas d'être fort attachant. Du grand polar à emporter dans ses bagages cet été. Alors, il n'y a pas de musique, mais bon, Lars me pardonnera peut-être le titre que j'ai choisi, le premier à se moquer de sa passion pour les saucisses bien grasses couvertes de sauce. On va s'écouter et Fats Domino's Fat Man.
Thank you.
On part en Irlande maintenant avec « Parfois, le silence est une prière », un titre de Billy O'Callaghan qui est paru chez Christian Bourgois éditeur et qui a été traduit de l'anglais Irlande par Karine Chichereau. Donc là, c'est un siècle d'histoire, c'est une saga, un siècle de l'histoire d'une famille irlandaise confiée par trois personnages à tour de rôle. Un roman choral absolument exceptionnel, à l'écriture aussi en apparence simple que la vie de ces deux femmes et de cet homme, des vies en permanence survolées par la mort, mort de famine, de misère, de maltraitance, de désespoir, quand la guerre ne s'en mêle pas pour couronner le tout. On commence par Jeremiah, en 1920 à Douglas, un village proche de Cork. Il est hanté par le souvenir des tranchées, de la boucherie absurde de 14-18, et il fait face aujourd'hui au décès de sa sœur chérie, Mamie, décès dû, selon Jer, à l'intempérance et la brutalité de son beau-frère. Jer est en prison, il est en cellule, mis là en prévention par son ami policier en attendant les funérailles de Mamie afin qu'il n'aille pas régler son compte à cet ivrogne. C'est ensuite au tour de Nancy, la mère de Jer, née sur l'île de Clare, derrière sa dernière de sa famille décimée par la famine, qui part pour Cork en 1911 et y rencontre un sale type qui lui fera deux enfants et ruinera sa vie. Nancy va cumuler tous les maux causés par la pauvreté et l'ensemble des humiliations et injustices envers les mères célibataires. Et enfin, en 1982, Nelly, la fille cadette de Jer, agonisante, poursuit la saga et passe en revue sa vie sans rancœur ni haine, malgré tout ce que celle-ci lui a fait subir, mais avec une implacable lucidité. Chaque personnage utilise le jeu et livre sans fausse pudeur ses pensées les plus intimes, ses ressorts les plus secrets. Il se dégage de ce roman, de cette chronique familiale, puisque ce clan est celui de l'auteur, une émotion vraie tout en retenue et toutefois puissante, belle, rude et douce à la fois, quand l'amour y est évoqué. C'est du grand art et sans fioritures, mais quel talent d'écriture et quelle force d'évocation. Un grand coup de cœur pour Jer et sa famille et pour Billy O'Callaghan qui ne va certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Alors il n'y a pas de musique encore, mais on va tout de même écouter de la musique irlandaise, ce qui secoue un peu les Dropkick Murphys, Bring It Up Home.
Bill Jackson's just as good or bad as any man I've seen. He's just about as good or bad as either you or me. When Bill would come home late at night from a party or a spree, he'd bring his wife an electric gift, and here's what Bill would say. Good morning, dear, good evening, dear, good afternoon, I say. I stopped to have a friendly chat with a neighbor down the way. When I saw her connections and all the things they'll do, I thought, my dear, I'd buy a few and bring them home for you. A mixer and a toaster, he plugged into the wall. Stew pot and a coffee pot to boil things you boil. Her home looked like a hardware store, it shined so bright and gay. And every trip Bill snuck back home, the same old words he'd say. Good morning, dear, good evening, dear, good afternoon, I say. I stopped to have a friendly chat with a neighbor down the way. When I saw her connections and all the things they'll do, I thought, my dear, I'd buy a few and bring them home for you. This wash machine and wringer to make your linens white. That iron hair, that sweeper there to make your work so light. This beater here, this heater here, I guess you think me strange for carrying on my shoulders such a big electric range. Good morning, dear, good evening, dear, good afternoon, I say. I stopped to have a friendly chat with a neighbor down the way. When I saw her connections and all the things they'll do, I thought, my dear, I'd buy a few and bring them home for you. One winter night, the ground was white and covered orange sleet. The morning
wife was gone, she left this front door low. 'Twas with a sickly, trembling hand Bill read the words she wrote.
Good morning, dear, good evening, dear, good afternoon, I say. I'm having the friendliest chat of my life with a neighbor down the way. And I'm checking their connections to see the things they'll do. It occurred they'd make a mighty fine replacement for you.
Good morning, dear, good evening, dear, good afternoon, I say. I stopped to have a friendly chat with a neighbor down the way. I'm checking their connections to see the things they'll do. It occurred they'd make a mighty fine replacement for you.
Après s'être attaqué aux terroristes fascisants dans la menace 732, la capitaine Nina Meriem, flic d'élite, pas forcément appréciée de ses supérieurs, va se plonger dans les rouages du marché des armes et des poètes qui s'y agitent. C'est du moins ce que suggère le titre du dernier roman de Frédéric Potier, La poésie du marchand d'armes, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire. Bonjour Frédéric Potier.
Bonjour.
Donc tout commence par une disparition, tiens donc, celle d'un monsieur qui s'appelle Abdel Lounès, dit le Libanais, et qui est un type un petit peu spécial.
Oui, alors il est spécial parce qu'il a un métier assez particulier qui est celui d'intermédiaire en exportation d'armement, autrement dit marchand d'armes. Mais c'est pas un marchand d'armes façon Nicolas Cage, Lord of War avec des prostituées, de la coke et des kalachnikovs. C'est plutôt le marchand d'armes tout à fait présentable dans un grand costume hors de prix qui travaille avec les gouvernements. Et c'est cette réalité-là que j'ai voulu montrer, par laquelle j'ai voulu commencer mon roman.
Ouais, lui il vend rien, c'est un intermédiaire quoi, et il met les gens en relation.
C'est ça, lui il vend rien directement, mais par contre rien ne se fait sans lui, c'est-à-dire que nos industries de l'armement, lorsqu'elles veulent vendre des avions, des bateaux, des chars d'assaut, des canons dans des pays peu recommandables, eh bien on fait appel à ses services, et donc ce monsieur-là est au cœur d'un certain nombre de secrets.
Ouais, des denrées de première nécessité quoi. Et ce personnage-là, vous l'avez construit, sont des personnages réels ?
Alors je l'ai façonné en m'inspirant de plusieurs intermédiaires connus ou pas d'ailleurs, mais aussi certains de mes amis qui travaillent dans ces milieux un peu troubles. Et donc cette trajectoire que j'invente de ce marchand d'armes très particulier, elle est tout à fait crédible parce que c'est celle d'un de mes amis. Donc je n'ai pas fait complètement de la science-fiction en écrivant l'histoire de ce personnage.
Ouais, parce que moi je voyais bien un type comme Ziad Takedine quoi.
Oui, il y en a d'autres. Hein. On m'a parlé de.
Ouais, moi, je les connais Julie. Pas. Ah oui, il y a Julie, ouais. Les copains à Sarkozy, quoi. Ouais, ouais.
C'est ça. Des gens assez sulfureux, dont on ne sait pas très bien quel est leur niveau de compétence et de connaissance des secrets d'État, et dont on observe qu'ils sont toujours plus ou moins là.
Vous n'avez pas honte.
De rien.
Et donc, au début du roman, Nathalie Borde, qui est la présidente de la République, vient d'être élue. Et elle a totalement changé l'étonnement de ses collaborateurs. Elle a complètement changé de vision politique sur l'armée. Entre autres avec l'arrivée des Russes en Ukraine.
Absolument, j'imaginais une présidente de la République qui, dans son premier mandat, était très pacifiste, très allante sur le désarmement, qui finalement prend conscience que le monde actuel, il est particulièrement dangereux, parce qu'il y a du terrorisme, parce qu'il y a des conflits internationaux, et qu'au fond, on n'a jamais eu autant besoin d'une armée. Et la question, c'est avec quelles valeurs on construit cette armée. Et je fais de cette présidente de la République, originaire du Sud-Ouest, quelqu'un qui lit beaucoup Jean Jaurès. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais Jean Jaurès a écrit un bouquin qui s'appelle « L'armée nouvelle », et dans lequel il théorise, il réfléchit sur les doctrines, sur l'emploi de la force, sur la réserve, sur le lien entre la nation et l'armée. Et donc, voilà, donc j'ai voulu en faire une présidente de la République de gauche, mais qui ne soit pas du tout antimilitariste.
Espérons qu'elle n'ait pas le destin de Jaurès, né à Carmaux, et qui a été assassiné juste avant la guerre.
Donc,
Donc, dans votre livre, il y a une grande spécialiste, prof de Sciences Po et d'Harvard, et vous faites il y a un chapitre sur un débat télévisé, Sarah Effenberg, qui met le doigt sur la faiblesse, justement, qui est en train d'essayer de corriger Nathalie Borne, la faiblesse de l'armée française. Donc, vous dites qu'elle tient dans le Stade de France.
Oui, finalement, on a une armée qui est assez limitée en nombre. Alors, il y a une autre expression que j'ai trouvée sous la plume de journalistes experts de ces questions-là, c'est la notion d'armée bonsaï.
Oui.
C'est-à-dire, on a tout de très bon niveau, on a de tout avec des niveaux technologiques assez avancés, mais finalement, on a très peu d'armes. D'où cette idée d'armée miniature qui est tout à fait pertinente dans un monde où il faut aller de temps en temps intervenir dans un pays lointain et utiliser la force. Sauf que ce n'est pas tellement le paradigme qui est aujourd'hui sur le paysage avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, où on voit bien qu'en fait, il faut beaucoup d'armes, il faut beaucoup de munitions pour pouvoir tenir un conflit sur le temps long. Et c'est cette interrogation-là que j'ai voulu retracer dans ce polar.
Oui, mais d'après les experts, je crois qu'on est capable de tenir 15 jours.
Ouais, c'est ça, 15 jours, 3 semaines, on n'en sait un peu rien, et puis on espère qu'il ne faudra jamais savoir, hein, d'ailleurs.
Bon, on n'arrivera jamais à apprendre le russe en 15 jours. Hein.
Ah non, c'est beaucoup trop dur. mais par contre, c'est vrai que ça pose la question de ces choix politiques et démocratiques, parce que c'est des armes qui coûtent très cher, c'est des armes qui demandent du temps à être produites, et donc moi j'estime que c'est un débat qui ne devrait pas être réservé à une petite élite ou à un petit cénacle, mais au fond qui devrait tous nous interroger, parce qu'un conflit ça peut arriver demain, et puis surtout la préparation de ce conflit c'est quelque chose qui doit tous nous interroger.
Et donc là où tout le monde est bien embêté par la disparition de Lounès, c'est qu'en plus de ça, il y a un attentat qui se produit à Lorient, dans les chantiers navals d'un grand groupe industriel qui s'appelle Poséidon, qui avait 5 frégates en chantier et qui construit des drones de dernière génération, des drones Trident. Et donc si on veut renforcer l'armée française, si la présidente veut renforcer l'armée française, il lui faut des sous. Et pour avoir des sous, il faut vendre des armes. Et donc là, tout est un petit peu remis en cause.
Oui, et puis il y a un grand paradoxe hein, qui est lié à notre histoire. C'est-à-dire que le général de Gaulle a voulu qu'on ait une nation souveraine et indépendante, donc une armée souveraine et indépendante capable de produire tout type de matériel. Et sauf que pour produire tout type de matériel et que ça soit à peu près rentable, eh bien, il faut qu'on puisse exporter et qu'on puisse exporter dans des pays qui ont besoin d'armes. Donc par définition, des pays qui se situent dans des zones de tension, des pays qui sont dirigés par des régimes autocratiques.
Qui découpent en rondelles des journalistes, par exemple.
Par exemple, au hasard. Ce qui fait que, quand on produit des bateaux de guerre... et qu'il y a un attentat dans l'arsenal de Lorient où sont construites ces frégates de dernière génération, on peut se demander qui est responsable de ça. Est-ce que c'est un groupuscule d'extrême droite? Est-ce que c'est une puissance étrangère? Est-ce que ce sont des pacifistes radicalisés? Le champ des pistes et des possibles est ouvert dès le début du livre.
Alors là, c'est ça qui va mettre Nina hors d'elle, c'est que les suspects ne manquent pas. Il y en a un pléthore, à commencer par désallumer l'ange blanc qui a monté un collectif contre les exportations d'armes et qui est complètement allumé, c'est une dérive sectaire, etc. Et des bien sûr l'extrême droite, comme d'habitude, qui refuse qu'on vende des armes aux Arabes, qui préfère qu'on tire sur eux plutôt que ce qu'on leur vende nos armes. Et Nina va un petit peu péter les plombs.
Elle va péter les plombs, mais parce qu'elle a elle aussi une trajectoire personnelle, puisque je lui invente un patronyme kabyle étranger. Et face à une personnalité d'extrême droite bien active sur les réseaux sociaux, qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges et d'impunité, parce que cette personnalité s'est cachée derrière plusieurs masques, à un moment, ma capitaine de police, Nina Meriem, elle en a marre. Elle en a marre de suivre les procédures, elle en a marre d'être polie, elle en a marre de laisser se propager des salauds pareils. Et donc, elle lui fait passer un interrogatoire un petit peu musclé. Voilà. Donc, cette capitaine de police, moi, je l'ai voulu un peu comme l'enfant rebelle de la DGSI. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un forcément qui a plein de gadgets technologiques.
C'est pas James Bond qui a du
tempérament.
Oui, c'est pas James Bond, c'est plutôt le gorille. Elle fonce.
Ah oui, elle fonce, et puis elle fonce parce que parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a des intuitions et parce qu'elle veut arriver au bout de ses enquêtes qui mettent en cause des victimes. Il y a quand même des morts dans ces attentats. Hein, donc on n'est pas sur des affaires purement intellectuelles ou abstraites.
On a des morts et en même temps on a ce fameux secret défense avec le chef d'état-major des armées. Il y a beaucoup de personnages dans votre roman, tout le monde se tire dans les pattes, la DGSE, la DGSI, les polices, enfin personne ne s'entend parce que on a affaire à un mur du secret qui est absolument terrible.
Oui, et ce mur du secret, il est alimenté par l'objet même, hein, l'exportation d'armes, c'est évidemment la raison d'État qui est en jeu, la sécurité nationale qui est en jeu. Donc évidemment, tout le monde cherche à protéger ses petits secrets ou ses intérêts, hein, que ce soit du côté des militaires, que ce soit de l'État-major, que ce soit du politique ou des services secrets. Et donc cette guerre des services ou cette guerre des polices, finalement, c'est quelque chose d'assez classique, mais qu'on retrouve à peu près dans toutes les affaires politico-militaires ou politico-financières de ces dernières années.
Oui, Karachi, les frégates de Taïwan, etc.
Absolument.
Il y a quelque chose qui est très important dans votre livre, c'est l'opacité au niveau des rétrocommissions. On sait qu'il y a de l'argent qui circule, on sait qu'il y a des valises, on sait qu'il y a des gens qui touchent des sous. On ne sait jamais qui, parce que le secret défense est absolu et le secret n'est jamais levé sur les archives.
Il est jamais levé, ou en tout cas il est levé très longtemps après, ce qui fait que c'est très difficile de retrouver les responsables de ces rétrocommissions. Et c'est vrai que par le passé, vous avez tout à fait raison de rappeler que les partis politiques français sont largement financés par ce type de procédé. Aujourd'hui, on peut espérer que c'est différent parce qu'il y a des règles de financement des partis avec de l'argent public qui vient les financer. Mais dans le passé, c'était pas le cas. Et donc c'est là où en fait on a un mélange complet des genres entre les intérêts politiques, la sécurité nationale, des intérêts commerciaux et industriels, de l'emploi aussi, hein, parce que construire des armes, c'est construire aussi de l'emploi et de l'activité. Et donc la question est comment on arrive à se dépêtrer de toutes ces contradictions potentielles.
Ouais, dans votre roman, j'ai l'impression que vous avez voulu démontrer, enfin pas démontrer, mais montrer strate par strate, tout ce qui était mis en jeu dans une vente d'armes ou dans des négociations pour vendre des armes, du niveau local jusqu'au niveau international, à des politiques à un très très haut niveau, et qu'en fait tous ces intérêts-là étaient parfois antagonistes, et qu'il fallait quelqu'un qui arrive à lier la sauce.
Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un discours moralisateur ou dénoncer les ventes d'armes ou de dire ce qui serait le bien, ce qui serait le mal. Mon point est plutôt de dire que ces sujets sont complexes, qu'il faut intervenir des acteurs de nature extrêmement différente, mais que pourtant c'est des choix démocratiques qui appartiennent aux citoyens. Et donc c'est là où il y a une part de liberté, il y a une part de marge de manœuvre, et finalement mon enquêtrice, elle sert à ça. Elle sert à lever le voile du secret, elle sert à lever le voile de la raison d'État et du confidentiel défense, pour donner à voir ses coulisses, où se décident finalement ces grandes décisions qui devraient être prises à la lumière du contrôle des citoyens.
Elle est plus ou moins mise de côté, Nina Meriem.
Oui, il ne faut pas trop dévoiler l'histoire.
Non, pas du tout.
C'est évidemment pas une enquête qui est facile pour elle. Et comme elle travaille à la DGSI, elle travaille dans le secret et la discrétion. Mais oui, même y compris au cœur de l'appareil d'État, il y a des logiques tout à fait antagonistes et des gens qui s'affrontent. L'appareil d'État n'est pas monocolore ou c'est pas un bloc monolithique comme les. Enfin voilà. Donc il faut arriver à capter cet appareil industriel et militaire dans toute sa diversité et avec toutes ces logiques qui sont parfois contradictoires.
Et ce que vous mettez en avant justement, c'est effectivement que les citoyens devraient être mêlés à ça parce que ça les regarde, parce que c'est leurs impôts aussi,
et puis parce que c'est nos impôts,
c'est leur vie qui est en jeu, et qu'en fait ils sont jamais consultés là-dessus, et qu'au contraire vous revenez sur ces fameux conseils de défense. C'est-à-dire que tout se passe comme si le Parlement, déjà, n'est pas consulté. Et même le Conseil des ministres est tenu à l'écart.
Oui, alors le Conseil des ministres est pléthorique, avec plein de ministres qui n'ont pas forcément à connaître de ces sujets-là. Et donc, on a vu lors de la crise sanitaire, que le Conseil de défense était une instance plus restreinte et plus utilisée par la politique, parce que justement elle permettait d'avoir davantage d'échanges peut-être plus sécurisés et plus discrets. Et par ailleurs, au Parlement, on sait bien que ces questions militaires n'intéressent que les députés qui ont des unités ou des industries de défense dans leur circonscription. Donc en fait, on a une vision de cette question-là qui est finalement assez biaisée et qui n'est pas forcément ni honnête ni exhaustive.
Bon, je reviens à une dernière question, la poésie du marchand d'armes. Quelle poésie ? La poésie, bien sûr, c'est une référence à ce cher Arthur Rimbaud.
Absolument, on ne le sait pas beaucoup, mais Arthur Rimbaud, après avoir été jeune et grand poète, a fini sa vie comme marchand d'armes, trafiquant d'armes, en Afrique, ouais. Vendant des fusils à des chefs de guerre.
En Érythrée.
Et donc c'est un gros clin d'œil à Arthur Rimbaud, et je trouvais qu'associer la dimension politique aux enjeux économiques, industriels et de sécurité était quelque chose d'assez amusant finalement. Donc la poésie du marchand d'armes, je trouve que c'est un titre...
C'est un très joli titre.
Voilà, merci beaucoup, je vous laisse le dire alors.
Et je vous remercie beaucoup Frédéric Potier, donc je rappelle
merci
le titre.
À vous.
La poésie du marchand d'armes, c'est paru aux éditions L'Aube dans la collection L'Aube Noire. Et on va écouter un titre... on parle de ces musiciens-là dans votre livre, c'est Yom avec Ibrahim Malouf et qui joue Petite Fille. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.
Un petit voyage dans les îles avec mai 67 de Thomas Cantaloube qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Alors en mai 67, l'inflation, les conditions de travail, le mépris des patrons et des autres béquets, les salaires de misère lorsqu'ils sont payés, la répression féroce des indépendantistes, des militants politiques au syndicat, tous ces facteurs ont poussé la population noire de la Guadeloupe à bout. Le régime gaulliste compte sur le préfet et ses policiers pour résoudre sans trop de bruit en métropole les frémissements de révolte qui parcourent l'île. Ce sera une simple manifestation de grévistes mal encadrés par des flics qui paniquent et qui se mettent à tirer à balles réelles et emprisonnent tout ce qui leur tombe sous la main sans rime ni raison, un peu comme dans les manifestations à propos de la réforme des retraites, pour vous donner une idée. Il y aura des morts, des blessés qu'il faudra cacher, des militants et des passants. Alors, 19 personnes en tout seront transférées en prison en France afin d'y être jugées par un tribunal d'exception, une pratique dictatoriale qu'une presse, pour une grande partie aux ordres, ne condamne pas, s'en tenant à la version officielle totalement fabriquée. Alors, selon certaines sources, parce que ce sont des faits réels, cette répression fit officiellement 8 morts. Alors ça, c'est pour le côté gouvernement, et en fait près d'une centaine d'après les observateurs fiables qui étaient sur place. Thomas Cantaloube achève ici sa trilogie sur les débuts peu reluisants de la Ve République. On y retrouve avec grand plaisir ses personnages fétiches, Luc Blanchard, l'ancien flic devenu journaliste, habitant désormais la Guadeloupe, et dont Lucille, l'épouse, fait partie des 19. Antoine Lugesi, l'ex-truand, reconverti dans le convoyage de bateaux, et Sirius Wallström, ancien supplétif de la Gestapo, barbu sans état d'âme, encore que, et qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et il travaille aussi bien pour la CIA que pour diverses officines d'extrême droite, ce qui ne l'empêche pas de filer un coup de main aux copains. Alors, les romans de Thomas Cantaloube, journaliste d'investigation à Mediapart, s'appuient sur des faits historiques et une documentation plus que sérieuse. L'auteur n'en néglige pas pour autant le suspense, la construction minutieuse de l'intrigue et la complexité de ses personnages. En 3 romans, Cantaloube prouve que cette Ve République, que l'on dit à bout de souffle, portait en germe dès le début tous les outils nécessaires à la dérive autoritaire à laquelle on assiste aujourd'hui. Mai 67, c'est un roman salutaire et passionnant, deux raisons de ne pas passer à côté. Et dedans, il y a de la musique, on va s'écouter The Yardbirds, Earth Full of Soul.
Says to you, she don't love me.
Il était venu en Californie pour vivre son rêve de musique. On lui a brisé les doigts et il ne sait pas pourquoi. Depuis, chaque nuit, il marche à travers la ville du Grand Sommeil. Le jour, tel un vampire, il dort ou se terre dans sa chambre de motel miteux à deux pas d'une guitare bleue électrique. Tel est le narrateur de Bleu Guitare, qui est paru aux éditions La Tango. Et Simon Baril, son auteur, est avec nous. Bonjour Simon.
Bonjour Patrick, merci de m'accueillir sur vos ondes.
Alors tout avait plutôt bien commencé pourtant pour ce jeune Français à son arrivée.
Oui, ben, les deux premières années, il part très jeune en fait. Hein, je crois que lui et ses camarades, ils ont formé leur groupe à Lyon, ils étaient encore lycéens. Et très vite, vers 20 ans, ils partent là-bas, ils partent à Los Angeles, la ville de leur héros. Et pendant deux ans, tout se passe plutôt pas mal, c'est-à-dire ils donnent des concerts dans des endroits de plus en plus intéressants, on les remarque, ils enregistrent un premier album dont la presse commence à parler, qui rencontre un certain succès, et voilà qu'on leur propose un concert dans une de ces salles mythiques du Sunset Strip de Los Angeles. Donc, il ne nous dévoilera pas le nom de cette salle, mais c'est quelque chose qui fait penser un peu au Whisky à Gogo, moi je dirais, des choses comme ça. Et là, à la sortie du concert, qui lui-même s'est bien passé, bah, il passe par une ruelle où on l'agresse avec une bouteille de whisky qu'on lui fracasse sur le crâne. Et quand il se réveille à l'hosto, effectivement, il découvre que ses mains ont été mutilées avec les bris de la bouteille.
Et en fait, depuis, c'est le trou noir. Déjà, on ne dévoile pas la salle, mais il ne dévoile pas son nom non plus. On ne sait pas comment il s'appelle. Et ouais. C'est devenu un zombie. Il marche la nuit. Est-ce que c'est pour remonter le cours du temps?
Question intéressante, dis-je. Mais je sais. Est-ce qu'en tout cas, c'est pour rester dans une espèce de temps suspendu? Je dis dans des espèces de limbes. Moi, j'ai l'impression. En tout cas, pendant 9 ans après l'agression, quand il se terre dans un studio au sud de la ville, dans un de ces immeubles un peu crasse-pouille qui ressemblent un peu à des motels bas de gamme, vous savez, avec une cour au milieu, une piscine un peu à l'eau un peu dégueulasse au milieu, il y reste pendant 9 ans. Donc toute la journée il dort et toute la nuit il marche pour s'épuiser. Et j'ai l'impression qu'il veut rester dans un espèce de temps suspendu où il va réfléchir le moins possible et surtout pas à son avenir, pas au passé non plus. Et quand on le découvre au début de Bleu Guitare, eh ben, il y a quelque chose il y a un déclic qui se produit. Et là, effectivement, il va avoir envie d'un peu de se raccrocher au cours du temps, de comprendre le passé et peut-être de s'inventer un futur.
De laisser des traces, parce qu'en fait, il marche dans la nuit, mais marcher dans la nuit sur les trottoirs de Los Angeles, il neige pas, ça laisse pas de traces. On dirait un peu qu'il se met en transe, qu'il est dans un état hypnotique, et tout d'un coup, il s'achète un carnet, il a envie de raconter.
Ben oui, c'est ça, hein, l'état hypnotique. Vous avez dit zombie aussi. Absolument. Il y a un moment donné, ce qu'on parle un vampire parce qu'il sort pas le jour, mais il n'a pas du tout d'interaction même érotique avec encore moins érotique, je veux dire, avec les gens autour de lui. Donc oui, il y a un déclic qui se produit. Il entend des cris qui le réveille dans la journée, alors que d'habitude rien ne le réveille dans la journée. Et là, il y a un couple qui se dispute avec un petit garçon qui est sans doute l'enfant de ce couple, qui a l'air malheureux, qui voit sur les marches du motel, mais avec qui il a du mal à interagir. Et il va avoir l'envie de s'acheter un carnet, un cahier, et de commencer une sorte de journal. Alors au début, il commence à dire « j'ai pas l'intention de tenir un journal », mais ça se transforme quand même en une sorte de journal. Et on comprend que c'est en écrivant qu'il arrive à justement retrouver le fil de son existence et commencer un travail de reconstruction.
Ouais, c'est un peu comme tous les gens qui disent je suis pas là pour te raconter ma vie, mais qui finalement finissent par la raconter.
oui, c'est ça.
Mais pour moi, quand il se met à entendre les gens qui s'engueulent à côté, la scène de ménage, et il perçoit le malheur dans l'œil du petit garçon, et c'est tout d'un coup, c'est comme un réveil, il se réveille à la vie, il perçoit le malheur chez les autres, alors que jusqu'à présent, il n'était centré que sur le sien.
Oui, là encore, je crois que vous avez raison. Je crois qu'il y a deux choses avec ce petit garçon. Il y a peut-être, on peut soupçonner qu'il y a un écho de lui-même, de blessures qu'il a, qui sont plus anciennes, remontant avant même de cette agression, parce qu'il y a un peu un mystère quand même. Bon, cette agression, elle est tragique, elle l'empêche de faire ce qu'il croit être né pour faire. Hein. Donc c'est terrible. On comprend qu'il tombe dans une forme de dépression, mais on soupçonne qu'il y a des failles un peu plus anciennes chez lui. Et pour revenir à ce que vous disiez, Patrick, c'est vrai que moi je crois que chez ce petit garçon, il y a pour lui c'est une chance pour lui quelque part de pouvoir peut-être s'intéresser à autrui et d'être ému par ce petit garçon et de vouloir peut-être aider ce petit garçon, mais sans c'est pas un feel good book non plus, c'est-à-dire qu'il va pas, voilà, comme vous le savez, il va, voilà, je sens rien révéler, hein, mais il s'agit pas, on peut pas s'attendre à ce qu'il transforme la vie forcément du petit garçon, à ce que lui-même soit entièrement transformé. Mais effectivement, de pouvoir s'intéresser à ce petit garçon, de pouvoir créer une forme de lien avec lui, c'est quelque chose de très important et qui est un des éléments qui le met en chemin d'une forme de guérison.
Il accepte de voir le reflet. Et c'est déjà énorme parce que jusqu'à présent, il marchait tête baissée dans le noir et il voulait voir personne. Là, tout d'un coup, il y a ça. Il y a son voisin, John, aussi. Et John, il est assez, assez rigolo, déjà. C'est vrai, comme personnage. Et il n'avait pas noué de contact depuis des années et des années. Et là, tout d'un coup, il se retrouve dans une boîte de striptease avec John qui lui raconte qu'il est pornographe, etc. Et tout d'un coup, on revoit, il revient dans la chair, dans la viande, alors qu'il n'y était plus du tout.
Oui, vous avez plusieurs choses. Vous avez parlé de l'idée de reflet. C'est vrai que lui, il a beaucoup de mal justement avec son image. Il est comme ses mains sont défigurées. Il a une cicatrice en haut du crâne, mais il y a quelque chose qui dépasse ça. Il veut plus être vu en fait, je pense, des autres. Et donc forcément, il n'y a plus du tout de relations même basiques, même toucher un autre être humain, c'est quelque chose qu'il ne fait plus depuis des années. Il aimerait bien se balader avec des gants, sauf qu'il penserait que ça le rendrait encore plus, on le repérerait encore plus dans la rue. Donc au début de ce roman, il y a plusieurs choses qui permettent de faire un lien, notamment, oui, avec la chair. Il y a ce club de striptease qui est un peu une expérience un peu choquante pour lui, je sais pas au sens moral, mais au sens où il n'a pas vu de corps nu depuis plusieurs années, on le comprendra après.
La chair peut être belle.
Oui.
Alors que
oui,
lui, il l'a en horreur.
Ouais, c'est vrai. Il a une. J'ai pas analysé ça. Vous avez peut-être une idée meilleure que moi de ce qui se joue dans ces scènes-là, notamment dans le club de striptease. Mais c'est vrai qu'il est à la fois fasciné et il nous avoue même que quelque part il ressent un désir très fort qui se réveille en lui pour tous ces corps féminins. Même si dans les clubs de striptease, il y a aussi beaucoup de choses qui se joue. C'est des corps qui sont à la fois attirants et en même temps, on est dans une, c'est quelque chose de commercial. C'est un endroit où il y a beaucoup de drogue, où les filles ne respirent pas forcément la joie. Donc, ça va pas être l'occasion pour lui de s'épanouir. Mais il se passe quelque chose, il joue quelque chose de fort. Et après, il y a un autre personnage féminin qui va essayer de retrouver
l'actrice qui est le personnage qu'il faut absolument qu'il retrouve. Mais ce qui compte, c'est que il a décidé d'enquêter, il a décidé de remonter le temps, il a décidé de retrouver presque celui qui l'a agressé pour comprendre.
Oui, l'histoire suit plusieurs fils, en fait. Elle bifurque parfois elle ne va pas là où on croit qu'elle va nous mener. Je pense, hein, maintenant que le livre est sorti depuis un mois et que je lis quelques critiques, quelques retours, et que je suis très ravi de découvrir comment les gens comprennent le livre. Et en effet, il y a d'un côté l'enquête, c'est-à-dire qu'il veut aller voir la police pour savoir... il se doute qu'on n'a pas retrouvé son agresseur, il aurait quand même eu des nouvelles sinon, mais il veut savoir si on a eu des éléments, si on a des pistes, si on a des soupçons. Alors il rencontre un inspecteur aujourd'hui à la retraite qui avait enquêté sur son affaire et qui s'en souvient parce qu'il avait été marqué par ce drame-là, et qui lui pose la plus de questions à notre narrateur que qu'il n'apporte de réponse lui-même, le flic. Mais c'est en partie une enquête pour essayer de réfléchir à qui a pu vouloir le détruire d'une manière aussi cruelle. Et il peut pas accepter l'idée que ce soit juste quelqu'un, un junkie par exemple, qui avait besoin de fric ce jour-là, parce qu'il entraîne plein, cette nuit-là plutôt, il entraîne plein dans ce coin de Hollywood, West Hollywood. Et est-ce que ça peut être juste ça, un malheureux hasard? Il est tombé sur quelqu'un d'un peu violent, quelqu'un d'un peu agressif et cruel ce jour-là, et que finalement il n'y aurait pas une raison particulière, mais c'est terrible à accepter pour lui. Ou est-ce qu'au contraire, parmi les gens qu'il côtoyait, notamment les gens de son groupe, est-ce qu'il a pu susciter des jalousies, des haines?
Parce que c'est lui qui composait en grande partie les chansons, et en fait c'était lui qui avait du succès.
Oui, alors ce qu'on comprend, ce qu'il laisse entendre par bribes ici ou là, c'est que les relations, elles étaient pas forcément très simples au sein du groupe. Mais bon, vous qui connaissez bien la musique, moi qui aussi lis comme un peu un groupie les revues dans mon cas, sur les j'adore les histoires des groupes et tout ça, il y a toujours des tensions, et ça peut être très très venimeux, on peut se détester et faire des choses magiques ensemble ou non. Là, il parle pas de haine exactement, mais on comprend quand même qu'il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des formes de jalousie qui naissent, il y a la question du contrôle artistique, de l'orientation du groupe. Donc tout ça, il s'interroge là-dessus, oui. Est-ce que la réponse serait dans des liens qu'il entretenait avec le groupe, le manager, le producteur?
Mais en fait, le flic est très très important, parce que j'ai l'impression même s'il ne lui apporte pas de réponse, peu importe, il lui montre qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et qu'il ne peut pas rester dans son état, dans son état de zombie. Là. C'est pas possible, il y a trop de choses qui sont en suspens.
Ouais. Tout à fait. Je pense à une chose, je pense au regard du flic sur lui. C'est-à-dire que le flic vient le chercher chez lui, après qu'il lui-même soit passé au commissariat, le flic débarque chez lui et il voit que le flic le regarde comme finalement un type qui s'est complètement laissé aller, un loser, si c'est pas même un junkie. Donc il a une forme de... C'est un moment où je crois qu'il ressent pas mal de honte, et le type lui donne des pistes un peu pour se relever, lui dit je peux vous mettre en contact avec des associations, des choses, ouais. Et il comprend un petit peu jusqu'où il s'est laissé dégringoler, et je pense que ça le fouette un petit peu, que c'est une des scènes où il comprend que bon, il faut qu'il se ressaisisse.
Qui se comporte comme un type qui mérite ce qui lui est arrivé?
C'est une bonne question, ça aussi. et puis c'est compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il a aussi l'envie. Parfois il se plaint, mais parfois il s'en veut à lui-même presque de ce qui lui est arrivé. Hein, il dialogue beaucoup avec lui-même à travers ce cahier, même si parfois il s'adresse à nous, parfois il se pose la question de pour qui il écrit. finalement, parfois il rêverait même d'écrire à l'actrice parce qu'elle représente, c'est une femme qu'il a peu connue, il l'avait rencontrée juste avant son agression, il espérait qu'elle allait venir le voir au concert, et c'est pour ça qu'il l'a attendu longtemps au bar du, et qu'il est sorti tard la nuit au bar du et club, ouais. Et que voilà, il était donc, il a pu se faire agresser. Et c'est important pour lui de la retrouver après. C'est aussi une des personnes. Il y a plusieurs relations qui nouent et qui vont chacune, à leur manière, lui permettre de poser une brique dans... je suis en train de m'engager, de partir dans une métaphore qui va être très maladroite, mais enfin de se reconstruire, oui, tout simplement, et grâce aux autres.
C'est exactement ça. C'est, pour moi, dans ce roman, petit à petit, il ramasse les morceaux. Il ramasse les morceaux et il essaye de reconstruire ses mains qui sont... il les regarde même plus, elles sont hors de lui. Et il a besoin de tout ça pour se reconstruire. Mais est-ce qu'on peut dire... Dernière question, c'est... Ce roman, c'est un peu un blues. Et c'est un blues qui se termine en gospel. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se remet à vivre.
Oui, alors vous avez dit plusieurs choses qui m'ont touché, et notamment cette histoire de blues qui se termine en gospel. À la fin, sans que ce soit le gospel, pour moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a pas l'idée que tout n'est que joie. C'est quelque chose qui naît quand même dans la souffrance et qui ne fait pas disparaître la souffrance, mais qui quand même arrive à toucher beaucoup de lumière.
Qui rappelle à la vie.
Oui, et je pense que à la fin, il y a les deux sont présents, c'est-à-dire qu'il n'a pas évacué tous les démons, pour trouver un terme, pour dire les choses vite fait, il n'est pas débarrassé de tout ce qui dans ce quoi il était embourbé, il s'est pas en paix avec forcément son passé, avec le mal, on peut dire, pour être un peu mystique, pardon, ou je ne sais quoi. Mais oui, ils essaient de se tourner le maximum vers quelque chose de lumineux.
C'est une très belle conclusion, je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est « Bleu guitare ». C'est paru aux éditions Latengo et c'est de Simon Baril. Donc, on parle de Eric Clapton, de Jimi Hendrix, etc. dans votre livre. Mais moi, j'ai choisi de rendre un petit hommage à un très, très grand guitariste de blues qui lui aussi craignait le soleil parce qu'il était albinos et qui est disparu en juillet 2014. Et il s'appelait Johnny Winter.
Ah, formidable.
Et qui va nous jouer Rock Me Baby. Merci beaucoup, Simon Baril.
Merci à vous, Patrick. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
À cheval maintenant, à cheval, on part loin en amont du ciel. C'est un roman de Pierre Pelot qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection La Noire. Donc on ne quitte pas l'Amérique, mais on change de siècle et de région. Là, nous sommes en 1865 en Arkansas. La guerre de sécession vient de cesser, c'est sûr, mais nul ne se sent en sécurité dans le sud. Des bandes de pillards, des déserteurs, des soldats démobilisés, bons à rien sadiques se forment un peu partout et écument le pays. Celle du capitaine Sangre de Cristo est particulièrement fournie. Plusieurs centaines d'hommes et sa réputation la précèdent. Elle sème la mort et la destruction partout où elle passe, pire qu'un vol de sauterelles. Parmi les pires membres de cette meute figure une femme, une énorme femme, ou ce qui y ressemble, surnommée Mother, espèce de sorcière maléfique à demi délirante mystique, n'aimant rien tant qu'éventrer ses proies du pubis au sternum. La horde est déjà à l'œuvre dans la cour de la ferme lorsque les quatre sœurs McEwen reviennent en carriole de récolter des abeilles sauvages. Installée dans la maison, elle a massacré les parents McEwen avant que Mother ne se livre à son passe-temps favori sur la plus jeune des filles, avant de repartir poursuivre ses méfaits et sauver le malheur et la mort beaucoup plus loin. Loin d'être résignées, les trois sœurs McEwen restantes se mettent en route à la poursuite de Mother et de ses complices, bien décidées à venger Aira, la cadette assassinée d'horrible façon. Un retour au western totalement réussi de Pierre Pelot, qui a touché à tous les styles avec autant de bonheur, un roman d'une noirceur et d'une sauvagerie absolue, porté par une écriture magnifique. Accrochez-vous bien au pommeau de la selle, ça va secouer fort et tout du long. Les sœurs McEwen ne sont pas là pour jouer dans la petite maison dans la prairie, et ceux qu'elles pourchassent non plus. Alors, rien ni personne, shérif ou pasteur compris, qui essaie de les raisonner, ne les feront renoncer. Pas d'hésitation, vérifiez votre Colt, votre Winchester, et à cheval, vous ne regretterez pas la balade sanglante. Parce qu'il y a un beau cow-boy sur la pochette de Happy Trails du groupe Quicksilver Messenger Service. On s'écoute Maiden of the Cancer Moon. Thank you. Allez, bon voyage, bon voyage, bon voyage et bonnes vacances si vous partez avant le prochain numéro qui pourrait, je l'espère, nous emmener sur les traces de Wagner et compagnie bien planqués dans le sillage d'espions de haut vol et de forces spéciales prêtes à toutes les missions. À peine 2 semaines à patienter, la prochaine devrait sortir avant le bal des preneurs de Bastille. À très vite, bye bye.
Des polars et des notes.